Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. Et l'on commencera ce journal avec un coup de théâtre dans l'enquête sur des soupçons de financement libyen dans la campagne présidentielle de 2007. Ziad Takeddine, l'un des principaux témoins à charge contre Nicolas Sarkozy, a retiré hier soir ses accusations. Explication dans un instant. Dans l'attente de la prise de parole du Premier ministre Jean Castex ce soir à propos de l'épidémie de Covid-19, nous nous penchons ce matin sur le dispositif mis en place pour les personnes vulnérables. Qui sont-elles et à quoi ont-elles droit lors de cette crise sanitaire ? Et puis direction l'Arménie à la rencontre de jeunes qui supportent encore le Premier ministre Nikol Pachinian, même après la défaite contre l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh, disent-ils. C'est peut-être un tournant dans l'enquête sur un éventuel financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Ziad Takeddine, l'un des principaux témoins à charge contre l'ancien président, a retiré ses accusations. Il s'est réfugié au Liban pour échapper à la justice française. Et Ziad Takeddine a donc parlé via une vidéo diffusée hier soir, Florence Turm.
Je le dis haut et fort, il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de Sarkozy. Face à la caméra, Ziad Takeddine met également en cause l'ancien juge d'instruction en charge du dossier, Serge Tourner, qui a, dit-il, bien voulu me faire dire des propos totalement contraires à ce que j'ai dit. Ces déclarations prennent le contre-pied radical des accusations que le sulfureux homme d'affaires franco-libanais a réitérées à plusieurs reprises, non seulement devant les magistrats instructeurs, mais également face à la presse, avec force détails. Il a affirmé avoir lui-même porté les valises et remis 5 millions d'euros à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, et à son directeur de cabinet, Claude Guéant, entre fin 2006 et début 2007. Ces accusations frontales ont pesé lourd dans ce dossier où Nicolas Sarkozy s'est vu mis en examen pour financement illégal de campagne électorale et association de malfaiteurs après 8 longues années d'instruction. En septembre dernier, la Cour d'appel de Paris a d'ailleurs validé les investigations menées par les magistrats et rejeté une série de recours en nullité formulés par la défense de l'ancien chef d'État. Logiquement, ce revirement spectaculaire devrait inciter les juges à auditionner à nouveau Ziad Takeddine, lui-même mis en examen dans ce dossier, mais il a tenu ses propos depuis Beyrouth où il est réfugié après sa condamnation par la justice française à 5 ans de prison ferme dans le volet financier de l'affaire Karachi. Le 15 juin dernier, jour de l'énoncé du jugement, il était absent de l'audience et se trouve désormais visé par un mandat d'arrêt.
Et j'ajoute que Nicolas Sarkozy a déjà réagi hier soir. La vérité éclate enfin, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. L'ancien président de la République demande sa démise en examen. Il annonce aussi son intention d'engager une procédure pour dénonciation calomnieuse contre Ziad Takeddine. Jean Castex ne devrait pas annoncer d'assouplissement du confinement malgré les attentes des petits commerçants. Le Premier ministre prendra la parole aujourd'hui à 18h pour faire un point sur l'épidémie de Covid-19 quand le nombre de malades continue toujours de grimper. Ce que l'on peut déjà dire, c'est qu'aujourd'hui, la liste des personnes vulnérables pouvant prétendre à du chômage partiel ou à un arrêt de travail s'allonge à nouveau, Isabelle Raymond.
Sont désormais concernées les personnes obèses et diabétiques, ceux qui ont des antécédents cardiovasculaires, qui souffrent de la maladie de Parkinson ou encore de la sclérose en plaques, ainsi que les femmes enceintes au troisième trimestre de grossesse. Pour toutes ces personnes à risque, le télétravail est à privilégier et si le travail ne peut pas s'effectuer à distance, il faut prendre toutes les précautions, à commencer par des postes de travail individuels et des horaires aménagés si nécessaire pour éviter les transports en commun à l'heure de pointe. En dernier recours, précise le ministère du Travail, le salarié peut être mis au chômage partiel et même, sur prescription médicale, bénéficier d'un arrêt de travail. Cela vaut aussi pour les indépendants. Plusieurs syndicats de salariés et des associations de malades saluent l'élargissement de cette liste des personnes vulnérables, même s'ils regrettent dans le même temps que ceux qui vivent sous le même toit en soient exclus, contrairement au premier confinement.
Et en attendant d'éventuels durcissements ou prolongements du confinement en France, qui est prévu, je vous le rappelle, pour le moment tout le mois de novembre, ce matin, en Suède, seul pays européen à n'avoir jamais confiné sa population, il n'est pas recommandé de mettre le masque. Le confinement n'est toujours pas à l'ordre du jour en Suède. Malgré une deuxième vague plus forte qu'au printemps, le gouvernement reste toujours sur sa position. Ça fonctionne plutôt bien grâce à une population qui respecte les recommandations, Frédéric Faux.
Au moins deux fois par semaine, les Suédois entendent ces recommandations de l'agence de santé, diffusées en direct à la télévision lors d'une conférence de presse. Alors forcément, au bout de 9 mois, ils les connaissent presque par cœur.
Gardez vos distances, c'est ça la priorité. Si on tousse ou au moindre symptôme, on doit rester à la maison.
Je vis en banlieue et normalement, je vais en ville tous les jours. Maintenant, c'est une fois par semaine.
Ces recommandations qui vise avant tout à rappeler les règles d'hygiène et à limiter les déplacements, s'appuie sur une loi. Ce ne sont pas juste des conseils et les Suédois sont très fortement incités à les respecter. Mais comme il n'y a pas de sanctions, sont-elles réellement suivies ? La réponse est plutôt oui. En s'appuyant sur la géolocalisation des téléphones portables, l'autorité de santé constate que dès qu'elle s'exprime, les déplacements diminuent de 15 à 20%. Une discipline qui n'étonne pas l'historien Lars Tregård.
Dans notre contrat social, il n'y a pas des sujets passifs qui attendent les instructions de l'État, mais plutôt une relation de réciprocité avec des citoyens qui sont capables de prendre leurs responsabilités. On n'a pas besoin de policiers pour nous dire quoi faire, car on a ce policier en nous, assis sur notre épaule, qui nous parle à l'oreille.
Tant que le système de santé permet d'endiguer l'épidémie, la Suède n'envisage donc toujours pas de confiner sa population.
C'était Frédéric Faux pour France Culture. Un nouveau pensionnaire au Panthéon. Après ce 11 novembre, l'écrivain Maurice Genevoix y est entré hier avec ceux de 14, comme il les nomme dans son recueil, lui qui a combattu dans les tranchées lors de la Première Guerre mondiale. Confinement oblige, cette célébration s'est déroulée en petit comité avec le président Emmanuel Macron, tout comme la cérémonie sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris toujours. C'était un peu plus tôt dans la journée d'hier. Et c'est pendant les commémorations du 11 novembre que des diplomates occidentaux ont été la cible hier d'un attentat à l'explosif en Arabie Saoudite. Cela s'est passé à Djeddah, à l'ouest du pays. Un employé consulaire grec et un policier saoudien ont été légèrement blessés. Saccage du Parlement et du bureau du Premier ministre. Appel à la démission de Nicole Pachinian. Manifestation en pleine loi martiale. On a beaucoup entendu la colère des Arméniens ces derniers jours, opposés à la fin de la guerre dans le Haut-Karabakh, souvent des vétérans de la guerre d'indépendance du territoire, des anciens soldats persuadés qu'ils auraient pu inverser le cours de la guerre. Mais la génération Pachinian, elle, ne s'est pas encore faite entendre. Ils ont entre 20 et 40 ans, ils ont fait des études, ils ont voyagé. Ce sont les premiers, il y a 2 ans et demi, à être sortis dans la rue pour la révolution de velours contre la corruption et les oligarques. Révolution qui avait porté au pouvoir Nicole Pachinian. 48 heures après la fin de la guerre dans le Haut-Karabakh, Anissa El-Jabri les a rencontrés.
Il assume sans phare être très atteint par la défaite. 2 jours après, le jeune entrepreneur Zadik Zadikian se sent encore
choqué, blessé, mais on a une part de soulagement parce que la guerre s'est arrêtée et ça a évité de nombreux morts.
Lui parler de la révolution de velours, l'arrivée de Nicole Pachinian au pouvoir, c'est voir soudain un sourire radieux illuminer son visage.
C'est un souvenir gravé, c'est pour moi la libération entre guillemets de l'Arménie, c'est vraiment un très beau souvenir.
Pachinian, libérateur d'un pays miné par la corruption et les oligarques, c'est comme ça que le perçoit encore la jeune génération. Derrière ceux qui veulent sa démission, il voit la main de l'ancien pouvoir qui cherche sa revanche. Ovanes Sasoyan, comédien et présentateur de télévision.
Nous avons peur que les oligarques reviennent. Mais moi, en tant que citoyen d'Arménie, en tant que personne, je ne les laisserai pas reprendre le pouvoir sur le pays.
Ce mercredi, on fleurit sur les réseaux sociaux des vidéos de jeunes militaires attendant leur démobilisation. Debout dans la boue et la brume, fusil sur l'épaule, les traits tirés, il répétait « Le Premier ministre a fait ce qu'il pouvait, il a été de notre côté jusqu'au bout ».
C'était Anissa El-Jabri, correspondante de RFI pour France Culture à Erevan. Hier, c'est sous haute tension qu'une marche était organisée en Pologne pour célébrer l'indépendance du pays. Le rassemblement était organisé par l'extrême droite polonaise. Elle avait choisi cette année comme slogan « Notre civilisation, nos principes », alors que le pays est secoué par une vague de manifestations en faveur du droit à l'avortement. Notre correspondante à Budapest était dans ce rassemblement hier dans le cortège. protège. Son reportage, ce sera à 7h dans le journal de France Culture. Pour terminer cette édition à 6h39, voici quelques mots de météo. Il y aura peu de pluie ce jeudi en France métropolitaine, excepté ce matin quelques gouttes sur une partie de la Bourgogne. Le temps sera donc sec par ailleurs, relativement ensoleillé et doux, avec 9 degrés ce matin à Rennes et à Strasbourg, 11 à Lille, Paris et Lyon, 15 degrés à Marseille.